partie de la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
C'est une journée pédagogique pour une de vos filles aujourd'hui qui est là et je vais la nommer parce qu'elle est à l'écoute. Je parle de Blanche. Bonjour Blanche, qui est accompagnée de sa bonne amie Olivia.
Exactement.
Alors, aujourd'hui, le sujet ou la question, comment les limbes juridiques influencent-ils la sécurité psychologique des demandeurs d'asile et leurs familles?
Merci, Hélène. Je me suis intéressée à cette question parce que j'ai travaillé avec une étudiante qui s'appelle Gila Kuhlman-Gonvalez et Iliane Miriandette qui s'est intéressée à ce sujet. Et puis, on a eu plusieurs échanges parce que Gila travaille comme psychothérapeute auprès de demandeurs d'asile qui ont été marqués par des grands traumatismes, le déracinement, l'incertitude liée à leur statut. Puis ensemble, on s'est penché sur les façons dont le contexte de l'immigration peut affecter la sécurité, le sentiment de sécurité des familles et puis leur capacité à offrir un cadre qui est stable à leurs enfants. Donc, c'est vraiment en lien avec les enfants et avec la famille. On va prendre l'exemple d'un cas d'une femme qui s'appelle Anna. Comme beaucoup d'autres, elle est venue au Canada à la recherche de protection. Elle et son mari et leurs trois enfants ont fui un massacre dans leur village en Afrique, dont ils sont les seuls à avoir survécu dans leur famille. Pour se rendre au Canada, ils ont dû passer quelques mois en Amérique du Sud, traverser une périlleuse forêt et se rendre en Amérique centrale. Pendant les 4 années suivant leur arrivée au Canada, Anna a craint pour la sécurité de sa famille, sans nouvelles de leur audience d'asile et dans l'angoisse d'un retour vers des violences qu'ils ont fuies. La date de leur audience à ce jour a été, vient juste là, d'être donnée, donc c'est plus de 4 ans.
Donc, le processus d'immigration semble bien compliqué, très, très complexe. Quelles sont les réalités de l'immigration, Roxane?
Selon les Nations unies, le nombre de personnes déplacées à l'international a atteint 122 millions à la mi-2024. Parmi eux, 40 % étaient mineurs, donc il y a beaucoup d'enfants là-dedans. Donc, demander l'asile en raison de la guerre, des conflits ou de la persécution, c'est un droit humain fondamental. Le Canada participe à la réinstallation des réfugiés depuis 1969. Donc, mais il existe toujours un écart entre les statuts. Les réfugiés, par exemple, bénéficient d'une protection légale avant leur arrivée, tandis que les demandeurs d'asile doivent attendre sur place, ici au Canada, la réponse à leur demande dans une situation qui est souvent très, très précaire et sans avoir les mêmes droits. Donc, si on pense à la situation d'aujourd'hui, en 2023, ça prenait environ 19 mois avant d'avoir une réponse, alors qu'en 2024, ça prend maintenant 38 mois.
Ça a doublé.
Les familles vivent dans les limbes juridiques, d'où ce terme, c'est-à-dire une période d'incertitude en attente d'une décision officielle.
Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur les limbes juridiques?
Oui, en effet, c'est un statut migratoire qui est précaire. La peur que la demande d'asile soit refusée s'accompagne évidemment de sentiments d'incertitude, d'insécurité, comme la crainte d'être expulsé et l'instabilité liée au logement. Les demandeurs d'asile, il y a beaucoup de difficultés liées à l'intégration. Il y a de la discrimination, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale. Puis il y a beaucoup de barrières aussi liées à la langue. Lorsqu'ils doivent s'intégrer, évidemment. En plus, ils sont séparés de leur famille, ils n'ont pas nécessairement de soutien social, puis il y a des obstacles fréquents comme l'accès aux services en milieu de travail, puis être limité dans le temps qu'ils peuvent passer réellement avec leurs enfants parce qu'ils sont dans un mode de survie. Donc, si on repense au cas de Anna, elle travaillait quelques jours par semaine dans un hôtel en espérant décrocher un poste permanent et son mari, lui, travaillait de nuit dans un entrepôt puis il avait peu de temps pour s'occuper des enfants.
Alors, on peut bien imaginer que les limbes juridiques ont des impacts sur la santé mentale.
Exactement. C'est un statut qui est incertain, précaire. Ça génère de la peur, de l'instabilité, de la détresse émotionnelle. Souvent, il y a des symptômes post-traumatiques qui sont présents, comme des flashbacks, l'hypervigilance. Tu sais, quand on est toujours en train de se demander si quelque chose va se passer. Donc, les personnes qui sont sans statut souffrent beaucoup plus de troubles de santé mentale que les réfugiés, par exemple. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis en 2021 auprès de 78 personnes qui ont vécu de la torture puis qui avaient des symptômes post-traumatiques et de dépression aux États-Unis et qui demandaient l'asile. Et la recherche a clairement montré que l'octroi de l'asile faisait en sorte que les symptômes post-traumatiques diminuaient. aussi que, il y avait une meilleure santé mentale et ils pouvaient aller plus rapidement vers la réunification familiale, leurs conditions de vie s'amélioraient. Et puis surtout, il y avait une réelle reconnaissance des souffrances vécues qui offrait un cadre plus légitime, social, moral, aux demandeurs d'asile.
Et quelle influence le traumatisme des parents et l'attente du statut peuvent avoir sur la relation parent-enfant?
Oui, ça peut être extrêmement difficile parce que vous savez, quand on a n'importe quel tracas, souvent on est moins disponible mm-hmm. pour aider les autres. Et si on a des enfants, nos enfants...
le ressentent.
Exactement. Puis nos enfants, hein, je sais que quand je vais moins bien, bien Blanche, elle va le savoir, puis elle va me dire « Maman, ça va-tu? »
Ouais.
Mais si j'étais un demandeur d'asile, puis ça dure des mois et des mois, donc c'est un stress qui...
ça laisse des traces.
Exactement, ça laisse des traces et ça s'ajoute à des traumas déjà vécus, puis à la peur d'être retournée dans le pays d'où je viens aussi, où, par exemple, dans ce cas-ci, ma famille a été tuée.
Donc, une transmission de la peur.
Oui, une transmission de la peur. Puis ça peut créer une vulnérabilité qui est vraiment importante. Puis, dans le cas d'Anna, dans l'exemple que je vous ai donné, sa fille de 8 ans, elle s'est mise à faire des cauchemars sur les atrocités dont elle avait été témoin. Puis, elle avait peur de devoir déménager à nouveau. Puis, c'est son enseignante qui était préoccupée. Elle trouvait qu'elle manquait d'engagement en classe. Puis, elle a contacté Anna pour lui en parler. Puis, c'est là qu'Anna a réalisé que son propre traumatisme se transmettait, puis son anxiété aussi affectait réellement ses enfants. Donc, les parents qui ont des symptômes post-traumatiques peuvent être plus évitants, parfois surprotecteurs ou intrusifs parce qu'ils ont peur que quelque chose arrive à leur enfant. Donc, ça peut susciter la peur chez leurs enfants, même sans le vouloir. Donc, c'est important quand on est parent d'offrir une base sécurisante à nos enfants, mais quand cette base-là, on ne l'a pas ou qu'on est dans un état de une situation qui est précaire, ça peut être plus difficile. Dans le cas d'Anna, bien, elle était épuisée émotionnellement, puis la pression qu'elle vivait en lien avec sa survie, bien, ça diminuait sa capacité de rassurer sa fille puis de lui offrir un sentiment de sécurité. Puis aujourd'hui, elle a encore ses symptômes en attente de son audience.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces familles?
Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense qu'au niveau politique, on devrait vraiment penser à l'humain qui est derrière cette demande-là, l'humain et la famille, puis peut-être d'augmenter, ou c'est-à-dire de diminuer les délais pour accorder les permissions de rester, les certificats, etc. Évidemment, il y a des interventions psychosociales qu'on peut faire comme pour essayer de renforcer la capacité parentale. Il y a des organismes communautaires qui sont habilités à aider les demandeurs d'asile dans leur recherche d'emploi, par exemple. Il y a des banques alimentaires. Puis au niveau des écoles, bien, c'est important que les enseignants aient cette problématique en tête parce que l'école donne un sentiment de sécurité et surtout de normalité aux enfants. Donc, c'est un espace où les enfants peuvent partager leur expérience migratoire. Il y a même des initiatives recherche-action qui mettent l'accent sur ces questions pour aider les enfants.
Bon, au moins, il y a quelques pistes de solutions, il y a de l'espoir. Et pour terminer, Roxane, qu'est-ce que vous recommanderiez? Vous avez un livre là, que je trouve vraiment formidable, qui me semble extrêmement pertinent pour ceux et celles qui veulent mieux comprendre la réalité des personnes immigrantes au Québec.
Oui, puis dans ce cas-ci, c'est des demandeurs d'asile. Donc, c'est le livre « Là où je me tairs » de Caroline Dawson, 2020. C'est magnifique. Elle raconte son enfance à Montréal après que sa famille ait fui la persécution politique au Chili des années 80. L'autrice écrit sur les difficultés d'intégration et les sacrifices de ses parents. J'ai trouvé un extrait, mais il y en a plusieurs. Honnêtement, j'ai eu de la difficulté à en choisir un. J'aurais pu vous lire
on vous
le
comprend,
livre
oui.
au complet. Donc, allons-y. « Mes parents travaillaient dans l'anonymat, à l'abri des regards. Dans la pénombre, personne ne pouvait voir que ma mère était de celles qui adorent les tout-petits, même ceux qui ne sont pas les siens, et qu'elle passait toute sa vie à s'en vouloir d'avoir manqué une partie de notre enfance à travailler 2-3 jobs pour arriver. Personne ne devinait que mon père était le meilleur orateur que j'ai rencontré, que quand il parlait, tout le monde l'écoutait. En faisant le ménage, il se taisait. »
Oui, c'est poignant. C'est assez touchant.
Ouais.
Alors, c'est un livre à lire et à relire, « Là où je me taire » de l'autrice trop tôt disparue,
oui,
Caroline Dawson. Roxane de La Sablonnière, merci beaucoup. On se retrouve le 11 décembre.
Oui, merci, bye-bye.